Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en mai 2009 et c'est l'épisode numéro 9. Bonjour à tous, je suis Patrick Béja, bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast où on parle technologie, internet, gadgets, Microsoft, Apple, Google, toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement de Intel, de Wolfram Alpha, qui est le nouveau moteur de recherche qui déchire, c'est la citation officielle, de Google, de Craigslist, de Facebook. Mais avant ça, je vais tout de même saluer mes deux invités du jour. Le premier, c'est une voix assez familière, puisqu'il a déjà été présent dans l'émission et que vous le connaissez évidemment de son émission à lui, qui est MacJT. Mathieu Blanco, comment vas-tu ?
Bonsoir. Très bien, très bien. Et toi ?
Bah écoute, ça peut aller, il fait un peu chaud ici sur Paris, mais donc j'ai laissé la fenêtre ouverte. Les gens de la chatroom, je les ai prévenus, hein, si jamais vous me voyez me lever tout à coup en catastrophe parce qu'il se met à pleuvoir dans ma cuisine, c'est pour ça.
C'est les aléas du direct.
Voilà, exactement. Et le deuxième invité qui est très sage dans le fond là-bas, c'est Cédric de Geek Inc.
Bonsoir.
Tu vas bien, Cédric ?
Très très bien.
Ouais, toi, donc on a en fait moi qui suis à Paris, Mathieu à Lyon et toi qui es à Bordeaux. Donc
exactement.
Toute la France là, c'est magnifique.
C'est pas mal.
Belle représentation.
Et on a aussi une belle représentation au niveau des adeptes de différents systèmes d'exploitation, puisque moi je suis plutôt Windows, Mathieu est plutôt Mac. D'ailleurs, on va voir deux, trois choses dont on va parler. Et Cédric, tu me disais que dans le pré-show que tu es un petit peu entre les deux, toi.
En fait, je suis plutôt quand même utilisateur de Mac, mais j'avoue que je suis assez critique vis-à-vis d'Apple, en fait.
D'accord. Oui, parce que je voyais ton image sur Skype, tu as quand même un beau MacBook qui te fait bien sourire, hein, sur ton image d'avatar.
Oui, c'est vrai.
Bon, tu essaieras de faire l'arbitre parce que je pense qu'on va avoir un petit combat un petit peu plus tard dans l'émission. Écoutez, bah, je vous propose qu'on se lance immédiatement dans l'émission. Je vais quand même dire bonjour à la chatroom, hein, qui nous suit fidèle comme toujours. Merci à vous tous, merci à Cérédouine et Magic Hommage qui sont fidèles au poste de la modération.
Toujours présent.
Et qui nous permettent de rendre tout ça possible. Je vois qu'il y a Jérôme également, Jérôme de Scuds, qui est un autre podcast que nous aimons bien ici au Rendez-vous Tech. Donc il y a plein de monde. La prochaine fois, si vous voulez venir nous voir, eh ben, on vous donnera les informations à la fin de l'émission pour nous rejoindre. Mais donc, comme je le disais, on va se lancer dans l'émission à proprement parler. Je vois dans les notes de l'émission, Mathieu, que tu avais mis que tu voulais faire une petite réponse à notre message de la dernière fois.
Oui, Jean-Daniel.
Jean-Daniel, qui nous disait qu'il aimait bien l'émission, mais il pensait qu'on devrait faire quelque chose d'un petit peu plus technique. Et il se disait, parce que seulement, il n'y a que les geeks qui écoutent les podcasts. Alors, je vois que tu voulais faire une réponse, je vais te laisser le faire.
C'est vrai que la question, elle était très intéressante et je voulais répondre par rapport à un autre podcast que les Rendez-vous Tech, par rapport à MacJT.
Avant ça, oui. Je t'interromps une seconde. Tu dis tout le temps les Rendez-vous Tech, mais c'est le Rendez-vous
Tech. Le Rendez-vous Tech, ah oui, il y en a qu'un.
C'est hyper important. le nom est unique et très précieux.
Par rapport au Rendez-vous Tech sans X. Comment dire ? Et effectivement, par rapport au sondage que j'avais fait sur MacJT, où tous les mails, où les personnes qui commencent à me suivre sur Twitter de plus en plus, c'est pour la plupart, c'est quasiment pas des geeks, c'est des gens qui découvrent totalement le podcast, qui ont débarqué comme ça, qui ont fouillé un peu iTunes, Donc par rapport à, et je reçois beaucoup de mails, beaucoup de messages de gens qui me disent c'est génial, on comprend, c'est pas technique, même comme toi tu dis la femme de Yann qui nous écoute ou d'autres, j'ai reçu des mails similaires. Donc voilà, je voulais répondre à Jean-Daniel comme quoi il n'y a pas que les geeks qui écoutent les podcasts. et par rapport à la durée, toi on te demande de faire plus court et moi on me demande de faire plus long.
De toute façon, c'est une des composantes de l'internet, les gens ne sont jamais totalement satisfaits. Je crois que c'est voilà. Contractuel.
Mais de toute façon, quand la plupart des baladeurs MP3, comment dire, tu peux t'arrêter, reprendre là où tu t'es arrêté sur ton podcast. Donc, la seule frustration que ça crée, c'est de s'arrêter en plein rendez-vous tech. Quoi. C'est tout.
Oh, il est gentil. C'est bien. Je te réinviterai, Mathieu.
C'est gentil.
Ouais, non, c'est vrai que j'ai eu pas mal de gens qui m'ont envoyé des emails en me disant non, surtout fais pas plus court. Nous, on aime bien quand c'est long. Plus c'est long, mieux c'est. Bon, on essaie quand même de pas aller trop loin non plus, mais c'est vrai que je comprends, il y a des gens on me dit que je n'ai pas, n'a pas son suite à tête de mort, pardon, je fais trop attention à la chatroom, je croyais qu'il n'y avait pas de son, ça m'a fait peur. Non, je veux dire, il y a effectivement des gens qui nous ont dit qu'il y avait un petit peu, qu'ils aimaient quand c'était long. Il y a des gens qui aiment ça, des gens qui aiment pas, hein. Je pense que il en faut pour tous, et si vous aimez les trucs un peu plus courts et un petit peu plus biaisés pour le Mac, vous pouvez écouter Mac JT.
Biaisé.
J'aurais quelques petits trucs à dire, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais pour le moment, on va se lancer vraiment dans les sujets de l'émission avec le premier qui est une amende absolument mirobolante de 1 milliard d'euros infligée par la Commission européenne à Intel. Alors ce qui s'est passé en fait, c'est que ces dernières années, Intel s'est rendu coupable, d'après la Commission européenne, de pratiques un petit peu répréhensibles dans le cadre de son monopole sur les processeurs. Je retrouve mes mots. Donc, ce qui se passait, c'est qu'il disait à des constructeurs comme Dell ou d'autres, si jamais vous achetez uniquement chez nous, on va vous faire des prix. Le problème, c'est que ce genre de pratique est a priori acceptable. Voilà, sauf quand on a un monopole, ce qui est le cas de Intel, ils ont quelque chose comme 90% du marché du processeur. Donc eux, ils disent, bah non, nous c'est des pratiques commerciales classiques. On n'est pas en faute dans cette histoire. Mais la Commission européenne a estimé qu'il y avait un petit peu plus que ça derrière cette histoire. Ils leur ont infligé une amende d'un milliard d'euros. Ça fait beaucoup.
C'est énorme. C'est énorme.
C'est bien plus que Microsoft avec son amende, hein. On s'en rappelle encore.
Ils avaient eu en tout quelque chose comme 700 millions, je crois. C'était 464 au début et ils en avaient eu une autre.
C'était coupé en deux, en fait. Ouais.
Ouais.
Là, ce qui serait bien, c'est d'avoir les suites. Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? T'as un petit document PDF, savoir où va l'argent, parce que 1 milliard quand même à la Commission européenne. Où va là? Non, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de avant que Intel fasse d'excellents processeurs et qu'AMD fasse ce qu'ils font actuellement. C'est vrai qu'actuellement il n'y a pas besoin de pratiques anticoncurrentielles. Parce que tu regardes les deux offres. Bon, t'es un constructeur, t'as vite fait ton choix, quoi. Mais c'est vrai qu'à l'époque Pentium 4 et compagnie, il y avait pas mal de bruit de couloir, d'accord. Oui, si vous prenez plus de temps d'AMD, nous on va vous enlever les promotions. Mais en même temps, toutes les marques qui trustent un marché le font, que ce soit Intel dans les processeurs, Microsoft avec les versions OEM de ses logiciels, les autres, ils font tout ça. Alors peut-être que Intel est allé un peu plus loin, mais bon, c'est dommage qu'ils mettent pas des trucs vachement clairs, tu vois. Voilà, ils ont des PDF complets sur leur site de la Commission européenne pour qu'on sache exactement qu'est-ce qui s'est passé, où va l'argent, comment c'est. Ouais, surtout qu'un milliard, c'est énorme.
Et ceci dit, on dit c'est énorme, mais il faut quand même préciser que ça ne représente qu'une fraction des bénéfices d'Intel de cette année, et ça va pas c'est pas que ça les plombe complètement, quoi. C'est un petit peu ennuyeux pour les comptables qui font les comptes à la fin de l'année, mais bon, ça va pas changer leur vie du tout, quoi. Et je pense même pas que ça change leur pratique. Ça a l'air énorme comme ça, mais.
Et non, je pense pas que ça change la situation actuelle.
Ouais. Non, ils ont largement fait leur beurre en fait pendant les années précédentes. Regardez bien, moi à l'époque, quand j'assemblais mon PC, évidemment, je prenais un processeur AMD parce que évidemment, il était beaucoup moins cher qu'un processeur Intel. Mais si je voulais acheter une machine dans un supermarché ou un PC portable assemblé, il était impossible de trouver du AMD. Hein.
Ça, c'est vrai.
C'était très rare. Enfin, bah, justement, à cause de ce genre de pratique, sans doute.
Mais bien sûr. Mais là, c'est flagrant en fait.
Aujourd'hui, les processeurs AMD sont moins performants que les processeurs Intel, mais ça, c'était pas le cas il y a quelque chose comme 5-6 ans. AMD avait fait une percée phénoménale dans le niveau.
Ah ouais, avec les Athlon, c'était les Athlon.
Exactement.
Ouais.
Mais c'est vrai que t'allais en magasin sur les 15 modèles, t'en avais 2 où t'avais de l'AMD. Et c'était, c'était des petits modèles ou des trucs pas intéressants, quoi. Mmh.
Exactement.
Donc, ce qui est surprenant, c'est qu'effectivement, ce milliard d'euros ne va a priori pas changer la vie d'un tel. Et même si c'est énorme, ça représente qu'une petite fraction de leur chiffre d'affaires et de leurs bénéfices de cette année. Donc, voilà, c'est tout. Ils vont le payer et ça va être. Et ça va s'arrêter là, je pense. Enfin, à vrai dire, ils vont le payer. Ils ont fait appel. Donc, on ne sait même pas s'ils vont le payer et s'ils doivent le payer quand. Et en plus, il y a une petite histoire à côté de ça que j'ai trouvé un petit peu petite de la part d'AMD. C'est qu'ils ont mis sur leur site web une grande annonce comme quoi « Regardez, voilà, Intel a fait ci, ça et ça. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas réussi à vendre de processeurs. Et donc, c'était de leur faute. Voilà, maintenant, c'est bien fait pour leur gueule. Ils sont... » Bon, j'interprète un petit peu hein, leur document officiel, mais j'ai trouvé ça pas super élégant de leur part non plus.
Hein. Mais AMD, ils ont fait souvent des trucs comme ça où ils mettent en première page des résultats ou du troll carrément.
Ouais, c'est
comme ça. C'est pas la première fois. C'est un état d'esprit pas, comme tu dis, pas très élégant.
Ouais.
Ouais. Après, il faut juste voir aussi. Une chose, c'est que, enfin, il faut les comprendre aussi, en ces temps difficiles de crise, justifier auprès de ses actionnaires qu'en fait, ça ne marche pas parce que c'est le concurrent qui payait. Vous voyez, ça peut aussi.
C'est sûr, c'est peut-être un geste dirigé plus vers les actionnaires que vers le grand public.
Ouais. L'actionnaire majoritaire qui, aujourd'hui, je crois, est ATI d'ailleurs.
AMD avait racheté ATI.
Oui, c'est l'inverse, pardon.
Oui, c'est ça. Sinon, Intel est également en train d'essayer d'étendre son influence en concurrençant Windows, plus ou moins. Enfin, on ne sait pas très bien de quoi il s'agit.
Ils utilisent le terme alternative.
Ouais, qui est, comme c'est toi qui as amené ce sujet, je vais te laisser en parler. Qu'est-ce que c'est que Moblin ?
Alors Moblin, c'est ils ont sorti donc la version 2 de leur alternative à Windows pour justement tous les portables, les netbooks et les mid.
C'est
Mobile Internet Device.
Voilà, exactement. C'est tous c'est les gens, les tablettes Arcos. Il y a aussi un Sony Vaio comme ça. Donc c'est tout ce qui est mini ordinateur, netbook. D'accord. Et tout petit ordinateur. Et donc c'est un système très porté sur tout ce qui est, tout ce qui est internet, photos, réseaux sociaux, etc. Et tu as tout dans une interface unifiée que tu peux installer sur ta machine. Et puis Moblin version 1 avait fait un. On en avait parlé, mais ça avait fait un échec. En fait, le projet était bien, mais ça n'avait pas attiré les foules de développeurs, ce qui est généralement la locomotive du projet. Ouais. Et donc, pour la version 2, ils ont délégué le projet Moblin à la Linux Foundation. Ils ont racheté une boîte qui est spécialisée dans ce genre de système, qui s'appelle OpenAdhand. Et donc, ils ont mis une boîte à plein temps dessus, ils ont racheté, ils ont délégué ça à la Linux Foundation. Et là, quand tu vois le résultat de la version 2, tu regardes la vidéo, tu regardes des vidéos du système, tu fais « Waouh, c'est génial !» Je veux dire, tu te retrouves avec ça sur un mid ou sur un netbook. T'as tout ce qu'il faut, quoi.
Il faut avouer que c'est un système d'exploitation vraiment épuré, en sens qu'il n'y a que l'essentiel. Il n'y a pas de... Il ne permet pas de faire énormément de choses. Il permet de faire ce pour quoi il a été designé. Mais si vous voulez faire autre chose, sortir un petit peu des sentiers qu'il a battus pour vous, c'est impossible. Donc vous avez votre logiciel de mail, votre logiciel de navigateur internet,
le truc qui va pouvoir,
un petit traitement de texte, un petit truc de messagerie instantanée, et c'est tout. À part ça, les trucs de médias, c'est assez complet, hein, mais c'est assez limité aussi.
On va dire c'est limité du fait que ce soit limité, c'est super bien intégré, puis effectivement ça s'adapte parfaitement à un netbook en fait.
Ouais. Tu y crois toi Cédric, qui est quand même assez un spécialiste de ce type de domaine, de segment de l'informatique?
Ouais. Pour travailler dans la distribution de téléphonie mobile, on va dire, et donc de ce genre de PC aussi, puisqu'en fait, ils ont débarqué chez le distributeur de téléphonie mobile essentiellement. Pour tout vous dire, j'ai testé Moblin cet après-midi sur mon MSI Wine.
D'accord.
Et je peux, qui avant était, juste avant le test, hein, était sous macOS, je ne devrais pas le dire. Donc j'ai fait le test, d'abord sur une version live CD, hein, c'est-à-dire que je bootais depuis le CD pour faire un test avec un lecteur externe. Ça marchait très bien, quelques petits ralentissements au niveau de l'interface graphique, c'était pas aussi beau que dans la vidéo. Puis ensuite je l'ai essayé
en l'installant,
et alors là j'avoue que j'ai vu la différence flagrante, c'est très très fluide. Pour le Mac user que je suis, c'est quand même eye candy, hein, faut dire ce que c'est, ça bouge vachement bien, tout est animé, c'est assez impressionnant. Moi, je suis ravi de voir ce système d'exploitation arriver, hein, parce que clairement, pour avoir tout essayé sur le Wind, que ce soit du Windows 7, du XP, du Vista, tout ce qui passait sous la main, Moblin, c'est vraiment celui que je garde à l'esprit, parce que, in fine, ce que je fais moi avec mon MSI, c'est uniquement du surf sur Internet, consulter mes mails, du Twitter, consulter mon profil Facebook, enfin voilà,
rédiger des commentaires. Voilà ce à quoi sert un netbook.
Et là, il boot en 2 secondes, c'est hyper impressionnant.
Mais ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que Intel va bientôt venir concurrencer Microsoft sur le domaine des systèmes d'exploitation carrément, ou...
Sur ces petites machines-là, je pense que oui, clairement. Il faut voir une chose, alors je ne peux pas tout dire parce que j'ai participé à des tractations avec Microsoft au sujet de la présence de Windows XP sur les netbooks.
Si tu as des accords de confidentialité, ne dis rien.
Non, j'ai eu aucun accord de confidentialité, mais je suppose qu'ils ne seraient pas ravis que les gens apprennent ce qui s'est passé derrière. Mais en gros, Microsoft a eu très peur quand ils ont vu débarquer l'Asus IPC 700. Mais alors très peur au point de brader les licences de Windows XP sur les netbooks pour vraiment ne pas perdre ce marché-là.
Ouais.
Et quand on voit arriver un système d'exploitation comme ça, qui finalement est sur un segment qui est le parent pauvre de l'informatique, hein, parce que clairement les gens qui ont un notebook ou autre trouvent que le netbook c'est trop petit, on fait pas tout ce qu'on veut avec, enfin bon voilà.
Ouais. Les gens qui ont un téléphone portable se disent j'ai pas besoin d'un truc plus gros pour faire la même chose
ou pour aller sur internet. Là Microsoft en fait s'est retrouvé un peu coincé parce que les gens voulaient absolument retrouver leurs habitudes de Windows. Le problème qu'il y a, c'est que le Windows Vista qu'il proposait n'était clairement pas adapté à ce type de machine.
Ouais.
D'où le 7 version netbook qu'ils nous promettent. Mais je ne suis pas encore certain que ce soit la vraie réponse. Quoi. Et là, ce petit Moblin, je le trouve très très prometteur, hein, sachant que c'est qu'une version 2, que d'ici la sortie définitive, il y aura des évolutions. Et en plus, on notera une chose, c'est qu'il est clairement adapté à des écrans de 7 ou 10 pouces, surtout 10 pouces, je pense d'ailleurs, à cause de sa résolution.
Ce qui n'est pas le cas des systèmes plus lourds.
Non, clairement. Et là, les icônes sont vachement grandes. D'ailleurs, on le voit même, la souris est quand même super grosse, je trouve, sur l'écran. Enfin, je ne voulais peut-être pas tester, mais c'est super grand. Et clairement, si l'écran de mon MSI était tactile, j'aurais le réflexe d'aller appuyer sur les onglets avec mon doigt et ainsi de suite. Hein.
Bon, entre ça et le système de Google et toutes ces choses-là, les choses bougent par l'intermédiaire de ce nouveau segment des netbooks, là, et on peut avoir de nouvelles surprises, d'autant plus que Mathieu, tu parlais également de choses qui bougent chez Apple, dont on n'a pas parlé il y a 2 semaines, mais c'est quand même une information intéressante à propos des processeurs.
Ouais, des puces et des processeurs. En fait, c'est ce que j'avais noté quand j'ai cherché des infos sur Moblin pour proposer le sujet. C'est que je me suis rendu compte que tous les grands noms des entreprises technologiques commencent à se déporter, à fusionner, à un genre d'effet de concentration de masse. On a Apple qui a racheté il y a quelques mois ou il y a un an PA Semi, société spécialisée dans les processeurs. Et là, ils ont recruté partout. Ils ont recruté chez Samsung, chez IBM, chez ATI, des experts en puces, en processeurs généralement ARM ou PowerPC. Et on le voit d'ailleurs par exemple dans le dernier modèle d'iPod. le shuffle, la puce qui est à l'intérieur, c'est une seule puce qui fait tout, et c'est eux qui l'ont designé, qui l'ont créé. Et dans l'iPhone, c'est pareil, il y a plein de puces qui n'existent pas, c'est eux qui les créent. Pareil dans le MacBook Air, ils ont
déjà,
pu le sortir.
Déjà aujourd'hui, il y en a. Moi, j'avais l'impression que qu'ils étaient en train de préparer ça pour les prochaines générations, justement.
Ils sont en train de préparer ça. En fait, ils passent à l'étape supérieure. Jusqu'à présent, ils dessinaient même les cartes mères et toutes les puces et plein de choses. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils peuvent sortir avant tout le monde un MacBook Air quand il est sorti et avoir une carte mère aussi grande qu'un crayon. C'est parce que c'est eux-mêmes qui designent tout.
Dans ta voix.
Non mais c'est vrai, c'est beau. Ça pourrait être une autre marque, mais quand tu regardes, quand tu l'ouvres, quand tu dis putain, c'est génial, quand tu vois une petite pomme sur les puces et tout, tu fais waouh, c'est pas un simple assembleur quoi, c'est eux qui créent. Et en fait là ils passent à l'étape supérieure, c'est-à-dire que c'est ils veulent arriver à un point où ils vont créer eux-mêmes leur propre processeur pour leur iPhone déjà, et après pour tout ce qui prévoit MacBook Mini, etc. Donc ils veulent aller vraiment dans ce sens-là. Donc on a Apple qui veut fabriquer ses propres processeurs, on a Intel qui est numéro 1 à 90% du marché des processeurs et des cartes graphiques, faut le savoir aussi.
Ouais.
C'est ni ATI ni Nvidia, ils ont combien ? Ils ont 40% du marché. On a Microsoft qui veut faire des machines, avoir son téléphone et avoir ses propres Microsoft Store. On a Google qui est complètement sur Internet et qui
tout
commence à sortir. Tout le monde fait tout. Tout le monde veut aller ailleurs.
Ouais.
Donc voilà, c'est un peu.
Écoute, on aura à propos d'Apple précisément sans doute plus d'informations au prochain rendez-vous tech qui aura lieu le 8 juin. Et c'est le 8 juin qu'il y a la keynote d'Apple au.
Ouais.
Donc on va tomber en fait pile quelques heures après, 2 heures après la keynote, donc on aura a priori de nouvelles infos à ce propos. Et un autre truc qui est nouveau, c'est un truc auquel personne ne comprend rien, mais dont tout le monde est sûr que c'est fantastique. Je parle de Wolfram Alpha, dont vous avez certainement entendu parler, vous qui nous écoutez, ou peut-être pas, mais enfin, Steven Wolfram a lancé un nouveau moteur de recherche qui s'appelle Wolfram Alpha. Et tout le monde a commencé immédiatement à faire la comparaison avec Google. Le truc, c'est que ça n'est pas du tout la même chose que Google. Là où Google, en fait, fait un index de toutes les pages web et les mots qui existent dans ces pages web et vous renvoie des informations sur votre recherche, ces informations contenant les pages qui incluent les termes que vous avez recherchés, c'est un petit peu compliqué mais vous allez comprendre, Wolfram Alpha fait quelque chose de différent. Le but à terme, c'est que il doit pouvoir comprendre la question que vous lui posez et vous donner les réponses qui correspondent à cette question. C'est-à-dire qu'à terme, en fait, ce qu'il voudrait obtenir, c'est une sorte de conception de page Wikipédia à partir de votre question, mais qui est la page serait faite à partir de toutes les données qu'il a, mais construite pour chacune des questions différentes. Donc, ce qu'il a, c'est qu'il calcule les réponses à partir des informations qu'il a dans une énorme série de bases de données différentes. Et il ne donne pas toutes les mêmes informations que Google, mais par contre, il répond de manière qu'il espère intelligente. Concrètement, ça veut dire que, par exemple, si vous tapez dans le moteur de recherche Wolfram Alpha USA, il va dire « Je pense que USA, c'est un pays ». Qui est oui bon, il n'est pas non plus complètement et il va vous donner par exemple les noms, donc le nom complet, les noms alternatifs, le code internet, le drapeau, la place dans sur la map monde, la superficie, etc., etc., les pays voisins et tout un tas d'informations comme ça qui n'ont pas été écrites par qui que ce soit mais qui sont calculées par le moteur de Wolfram Alpha qui essaye de réagir de manière intelligente. Voilà, alors ça, c'est la théorie. En pratique, vous deux, est-ce que vous l'avez essayé ? Et qu'est-ce que vous en pensez ? On va commencer avec Cédric.
Alors, moi, je l'ai essayé. Déjà, le gros problème, c'est la base de données sur laquelle il se base, qui est un peu vieille. La plupart des résultats que j'ai obtenus datent de... Enfin, les bases de données me renvoient des résultats de 2006, 2007... donc du coup, les résultats sont plus forcément vrais. Après, ça a plutôt bien fonctionné. Alors, je ne sais pas si ça vient de chez moi ou s'il y avait trop de monde sur Wolfram Alpha, mais j'ai trouvé ça pas très rapide.
Peut-être que tu l'as essayé au moment du lancement. Maintenant, ça.
Ouais, c'est possible. C'est possible.
Vu le battage médiatique, je trouve bien que le site est tenu. Comparé à d'autres.
Oui, c'est vrai. Après, je suis pas persuadé que ce soit suffisamment mature pour une exploitation grand public, clairement.
Ah oui, c'est une alpha, ça porte bien son nom.
Oui, tout à fait. Non, tout à fait, mais ce que je veux dire, c'est que je sais même pas si aujourd'hui... Il faut voir une chose, le moteur de recherche, c'est quand même... c'est effectivement des résultats non exhaustifs ou autres, mais c'est aussi finalement une marque et une habitude. Aujourd'hui, les internautes ont trop pris l'habitude de Google, et je crois que avant de changer de moteur de recherche, il va s'écouler des kilo-octets dans les câbles Ethernet. Hein.
D'accord. Et toi, Mathieu, qu'est-ce que t'en as pensé ?
Un peu près pareil sur au final, mais c'est vrai que c'est super impressionnant la façon dont certaines choses sont présentées. Quand tu demandes la population des États-Unis, ou même rien que les exemples que t'as sur la page d'accueil où tu lui demandes je sais pas caféine vs aspirine, et il te fait carrément des schémas de structure 3D moléculaire. Enfin c'est super bien présenté pour une alpha. J'ai trouvé ça super bien présenté.
Wolfram Alpha, c'est le nom du moteur, hein. C'est pas que c'est le moteur Wolfram en version alpha, c'est son nom, c'est Wolfram Alpha, oui. C'est le nom du moteur, donc c'est pas vraiment une alpha. Le moteur, ça y est, il est là.
Ah, c'est une version finale alors.
Version finale, disons qu'il continue à le. C'est la première version présentée au public, il continue à le développer. Et du coup, je vais en profiter pour donner mon impression, c'est que c'est un potentiel absolument énorme, c'est un potentiel monstrueux, mais vraiment, vraiment phénoménal. Qui n'est pas censé être utilisé comme Google, et la comparaison à Google le dessert. Mais à terme, ça peut devenir quelque chose de véritablement révolutionnaire, parce que c'est en quelque sorte, c'est pas vraiment une intelligence artificielle, mais c'est une série d'algorithmes mathématiques qui calculent une réponse plutôt que de trouver des équivalences de termes que vous lui avez dit de chercher. Donc, il comprend un petit peu la question que vous allez lui poser. Et déjà, ça marche pas si mal que ça. Il faut savoir comment lui parler. Mais quand on sait, ça marche pas si mal que ça. Donc, pas encore pour le grand public. Mais par contre, à terme, il y a un gros potentiel. Et c'est quelque chose qui est très excitant pour les technophiles. Parce que c'est le domaine dans lequel la science et l'innovation doivent avancer pour arriver à des choses comme... je sais pas, l'intelligence artificielle, les réponses universelles,
Skynet.
Voilà, exactement.
C'est cette nouvelle génération de moteurs de recherche, comment dire, en langage naturel.
Voilà, c'est ça, sémantique.
Effectivement, in fine, je pense que la masse des utilisateurs préférera taper un ou deux termes sur Google plutôt que de taper une phrase. Une phrase pour que le moteur Wolfram Alpha lui comprenne en plus dans le langage du navigateur.
Ouais, on n'y est pas.
Pardon, du moteur. Donc effectivement, on n'y est pas encore, mais c'est très impressionnant et je pense que Google devrait s'inspirer d'un peu de la manière dont c'est présenté ou des outils qu'ils ont réussi à créer, parce qu'il y a vraiment des trucs, c'est génial.
Par contre, il ne connaît pas les rendez-vous tech, hein, Wolfram Alpha.
C'est normal, c'est pas les rendez-vous tech, c'est le rendez-vous tech.
En plus, je l'appelle le rendez-vous tech.
En plus, merde. Bon, écoute, je vais aller lui rajouter quelques trucs dans sa base de données, discrètement. Mais vous savez, Google continue à innover, même dans son moteur de recherche, et ils ont ajouté, il y a peu de temps, des options dans la recherche, et je ne sais pas si vous les avez essayées, mais moi, j'ai trouvé ça... excellent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous tapez une recherche dans Google, vous avez en haut sur la petite barre où il vous affiche le nombre de résultats dans lesquels il a cherché, enfin qu'il a trouvé, vous avez une petite barre où il y a écrit « plus d'options ». Quand vous tapez sur cette barre, vous cliquez sur cette barre « plus d'options », il y a une barre qui apparaît sur la gauche du navigateur. Et vous pouvez faire soit avoir les résultats vidéo, les résultats des forums, ce genre de choses, les classer par nature, soit les classer par date, donc la semaine dernière, les dernières 24 heures, l'année dernière, soit par image, etc. Soit encore par timeline, le truc dont on avait déjà parlé il y a quelques temps, enfin, pas exactement Google News timeline, mais un truc un petit peu équivalent qui vous montre le nombre de news en fonction de l'année. Et encore un autre truc qui est la Wonder Wheel, Et ça, c'est le genre de jouet avec lequel on perd des heures au bureau, parce que la manière dont ça fonctionne, la Wonder Wheel, c'est vous avez un petit point central où il y a votre critère de recherche. Et il y a 4 ou 5 ou 6 critères de recherche sur les côtés, des critères de recherche connexes à votre critère de recherche. Et vous pouvez cliquer là-dessus et ça va vous donner les autres critères de recherche connexes à celui-là. Donc ça vous permet comme ça d'explorer un petit peu l'index de Google et les sujets qui ont à voir avec celui que vous recherchiez. Et moi, je trouve ça... C'est le genre de truc, on ne sait pas exactement à quoi ça sert, mais on est sûr que ça sert à quelque chose, quoi. Donc, bon, c'est mon interprétation de cette chose-là. Vas-y.
Bah, moi, en fait, j'ai testé. Alors, quand j'ai vu le sujet, j'avais pas vu qu'ils avaient rajouté tout ça. Et j'ai pris peur. Je me suis dit, mince, est-ce que c'est le début de la fin pour Google?
C'est vrai. Bah, tu dis, je complique les choses.
Je me suis vraiment dit ça sans tester, juste en voyant le sujet il y a une semaine. Je me suis dit, mince, est-ce que c'est le début de la fin? Parce qu'au début, on fait un moteur de recherche avec juste deux boutons et un champ pour marquer ce qu'on recherche et les résultats. Et puis, petit à petit, on rajoute des options, on rajoute. Et puis, on remplit la page. Et puis, au final, on se retrouve avec les anciens moteurs de recherche qui sont morts il y a quelques années parce que justement ils ont trop rajouté. Et j'ai testé sur Google en anglais, parce que sur le Google français ça n'avait pas encore, et j'ai trouvé ça génial parce que ça garde toute la simplicité de Google avec les possibilités de classement qui sont compréhensibles au premier coup d'œil, même si on n'a jamais été habitué, on est devant, on comprend tout de suite. Et puis effectivement on peut trier ses recherches, parce qu'on tombe souvent, on recherche un truc et puis on se dit ah, le deuxième lien ça doit être le bon, puis en fait c'est une page qui date de 2007 et puis on est complètement à côté de la plaque. Et là on peut effectivement classer par date, on peut virer les trucs qu'on a sur les forums, parce que c'est vrai que des fois les forums ça pollue un peu les recherches. J'ai trouvé ça tout simplement génial, la manière dont ça a été fait.
Google vaincra.
Et effectivement, la Wonder Wheel qui permet de sauter tout en restant dans le même dans sa recherche, de sauter de sujet en sujet tout en restant dans sa recherche. J'ai trouvé ça super.
D'accord. Bon, essayez sur Google US. Il y a aussi Google Sword qui est une autre forme de présentation qui est très intéressante aussi, mais on va pas trop en parler aujourd'hui. Vous pourrez essayer ça directement depuis les notes de l'émission. La traduction instantanée qui a été rajoutée dans Gmail aussi, ça j'imagine que ça marche pas super bien quand même, hein. Généralement les traductions, c'est pas moi, je m'en suis pas servi, mais Mathieu
En fait ils ont jusqu'à quelques mois ils étaient en partenariat avec Systran, qui est un des plus gros logiciels de traduction dans le monde. Il y en a que deux, il y a Reverso, il y a Systran, et Systran il est pourri, là, clairement il traduit mot à mot, là il n'y a pas de... même de l'anglais au français, alors du français à l'allemand, j'en parle même pas. Il traduit vraiment mot à mot, il était pourri. Et il y a quelques mois, ils ont carrément créé leur propre moteur de traduction. Ce qui est assez impressionnant, parce qu'il n'y a que deux, trois boîtes qui font ça dans le monde.
Ouais, en même temps, c'est Google, hein, ils ont de l'argent.
Voilà. Non, mais c'est vachement bien, c'est la crise, hein. Il y a toutes les boîtes qui sortent plus rien, qui machin, puis eux, ils continuent d'ajouter, de sortir des trucs énormes. D'accord. Et ça traduit pas trop mal, franchement, c'est compréhensible. D'accord. Si la personne en face s'écrit en SMS, oui, ça va sortir un truc imbuvable, mais c'est franchement, c'est pratique. Quand il y a un terme que tu comprends pas, tu joues avec les deux langues, c'est super.
Le plus intéressant, en fait, c'est de traduire dans un sens et de le refaire traduire dans l'autre sens. Et en général, on ne tombe pas sur le premier résultat. Ouais. Moi, en fait, je suis mal habitué, mais j'ai une prof d'anglais à la maison qui est contre les logiciels de traduction.
Donc, si elle te voit utiliser celui de Google, elle
te tue. je l'ai quand même essayé. Donc je parle doucement parce que j'ai pas très très bien. Je l'ai quand même essayé. Si vous m'entendez plus, c'est qu'on a été coupé. Hein. Donc je l'ai essayé et c'est vrai que c'est pas aussi catastrophique que les résultats qu'on pouvait obtenir avec, comme tu disais tout à l'heure, c'est Systrans. Hein, ouais. Reverso est quand même pas terrible non plus. Hein.
Il est mieux que Systrans, mais il est pas terrible.
Il est mieux, mais c'est quand même pas terrible. C'est vrai que c'est pas mal. Et encore une fois, c'est hyper impressionnant que Google se mette à créer un logiciel propriétaire.
Tout seul, oui.
Tout seul. Parce que d'habitude de Google, c'était pas tellement ça. C'était de racheter une boîte Enfin non, remarque, ça c'est peut-être plutôt Microsoft de racheter une boîte.
Non, même Google, hein, ils ont racheté
Google, Google le fait beaucoup. Hein.
Ouais.
Voilà, d'habitude, c'est plutôt ça dans leur habitude de racheter une boîte et, de, et d'incorporer les équipes au sein de, des leurs. C'est peut-être la crise justement qui les pousse à créer avec leur propre cerveau ce genre de logiciel. C'est parce possible. Que peut-être que de racheter une boîte comme Systrans ou Reverso, qui pourtant sont, ont des résultats
déjà bien implantés,
mais sont surtout bien implantés,
ça leur a coûté beaucoup plus d'argent. Ils se sont peut-être dit, bah, pff, cela, c'est vraiment pas génial, donc on n'a qu'à faire notre truc nous-mêmes. Comme ils ont fait d'ailleurs pour Chrome, hein, ils se sont dit, les navigateurs qui existent actuellement, on ne les aime pas trop, donc on va créer le nôtre. Et voilà, ils ont fait un truc super bien qui est sorti de nulle part, et qui est d'ailleurs passé en version 2.0 récemment, et qui est encore plus rapide. Donc c'est surprenant, mais c'est pourtant le cas. Donc vous pouvez aller la télécharger. Ils ont aussi rajouté les tâches dans Google, dans le calendrier Google. Il y a tellement de trucs, on s'en sert plus. Enfin, je veux dire, on s'en sort plus, je veux dire, les tâches. Mais c'est pas mal hein, dans le calendrier, c'est bien foutu.
Ça manquait.
Ils ont également, si vous êtes chez, si vous êtes séduit et que vous êtes chez Yahoo Mail ou Hotmail ou ce genre de choses, maintenant sur Gmail, il y a une fonctionnalité pour passer, pour importer tous vos contacts et tous vos mails directement en un clic. Donc, si vous voulez essayer Gmail mais que vous êtes un petit peu rebuté par l'idée de perdre tous vos mails sur votre ancien fournisseur, ben, vous pouvez le faire facilement désormais grâce à TrueSwitch, qui est merveilleux.
Ouais.
Et dernière news sur Google, c'est que ils ont
juste un truc avec TrueSwitch quand même. A priori, pendant 30 jours, les 30 jours qui suivent, on peut avertir automatiquement les gens qui nous écrivent sur l'ancienne adresse qu'on a une nouvelle adresse. D'après ce que j'ai vu.
Alors,
j'ai pas testé la fonction parce que c'est uniquement pour les nouveaux inscrits, mais c'est ce que j'ai vu et c'est quand même incroyable ça pour faire switcher les gens sur Google. C'est Bah, ils n'auraient pas pu s'y prendre mieux, quoi.
Ouais, il y a aussi, avant que ça existait, on pouvait déjà, comme dans un logiciel, un client lourd, on pouvait ajouter un compte POP à Gmail. C'est-à-dire à chaque fois qu'on se connectait, il allait checker la boîte mail, la poste ou Free ou autre, et puis récupérer les mails en live.
Ah mais moi c'est ce que j'ai, hein. J'ai genre 3-4 comptes qui arrivent sur Google Gmail et je m'occupe plus de ces autres comptes, tout passe par Gmail et se passe super bien et en plus il m'envoie une fleur toutes les semaines et il me dit que je suis super bien habillé le matin et tout, il fait tout Gmail, tout.
Mais c'est justement en disant cette techno là qu'ils préviennent les gens qui nous écrivent encore sur les anciennes adresses que maintenant vous avez une adresse Gmail quoi.
Ouais, c'est ça. Il va récupérer le mail, il dit « Oula, oui, bon, cette ancienne adresse, il s'en sert plus, vas-y, écris-lui sur la nouvelle, ça se passera mieux. »
Un répondeur.
Super pratique. Et Valeo, qui est un énorme fournisseur de pièces automobiles que les gens doivent connaître, a décidé de faire confiance à Google en implémentant les applications Google en lieu et place des applications Microsoft pour leurs 30 000 employés. Et c'est la première fois qu'une société d'une aussi grande ampleur, si je ne m'abuse, passe aux applications Google. Et c'est une marque de confiance assez énorme, en tout cas.
C'était ça la panne d'il y a 2 semaines.
Ouais. Ben, en fait, c'est la première qui, je pense, le déclare, parce que j'en connais une autre, moi. Alors, je ne sais pas si c'est entièrement toute l'entreprise qui change, ou c'est juste une de ses filiales françaises, mais c'est DDB en fait, l'agence de pub de com, qui utilise déjà Gmail par exemple comme serveur de mail en interne.
Oui, mais ils sont pas 30 000 chez BDDB.
Je sais pas, DDB quand même, ils sont assez nombreux. Hein. Je parle pas de DDB France, hein, mais aux États-Unis et ainsi de suite. Je pense que au total, avec même leurs filiales comme In et autres. Ils doivent être dans les 30 000. Hein.
D'accord. Bon, bah écoute, peut-être qu'ils ne voulaient pas que cette information
désolé.
Vienne à jour. Mais...
Ça, c'est fait.
D'autres personnes qui ne veulent pas que leurs informations arrivent à nos oreilles, c'est plus... Enfin, pas exactement comme ça, mais la transition... j'ai pas eu beaucoup de temps pour la préparer. c'est les départements d'État, enfin les départements légaux de différents États américains qui voudraient que Craigslist le fameux site de petites annonces, ils voudraient que Craigslist fasse disparaître de leurs petites annonces les annonces érotiques. Et ça fait un moment que cette histoire, j'en entends un qui se marre là derrière. et tout à coup, la chatroom qui était bloquée sur les histoires de Intel depuis tout à l'heure, il repasse à écouter l'émission. Donc, les petites annonces érotiques, en fait, ça posait de gros problèmes à certains États des États-Unis. Et ils voulaient que Craigslist fasse un meilleur contrôle sur ce qui passait dans leurs petites annonces. Ils ont dit pendant des années chez Craigslist qu'ils ne pouvaient pas contrôler tout ce qui se passait dans cette section de leur site, parce qu'ils ne pouvaient pas exercer un contrôle rigoureux sur toutes les annonces qui étaient gérées par les utilisateurs. Et les États ont fait tellement de problèmes qu'ils ont fini par dire « bon, on va changer un petit peu les choses, on ferme la section service érotique, on va ouvrir une section adulte où les choses seront un petit peu plus contrôlées ». Et pendant quelques jours, on a cru que les choses s'étaient calmées. Et c'était bien mal connaître les avocats américains, puisque les attorneys general de différents États ont décidé finalement de continuer les poursuites. Et là, ça devenait un petit peu ridicule, parce qu'effectivement, il y a énormément de sites plus locaux qui ont ce genre d'annonces et contre lesquels les autorités ne font rien du tout. Donc Craigslist en a eu un petit peu marre et ils ont dit bah écoutez, ça commence à bien faire, on fait un contre-procès et on va essayer de faire en sorte que la cour atteste que nous ne pouvons pas faire ce genre de choses et que vous devez arrêter de nous emmerder, en gros. Et c'est la première fois que Craigslist prend une attitude un petit peu agressive vis-à-vis des départements de ces différents États. De l'avis général, c'est plutôt une bonne chose parce que les demandes de ces avocats étaient plutôt déraisonnables. Donc,
Je crois qu'eBay avait eu le même problème avec Kijiji, non ?
Avec, pardon ?
Avec eBay avait eu le même problème avec Kijiji, comme ils l'appellent.
Je ne sais même pas de quoi il s'agit.
si tu vas sur eBay tout en bas, c'est dans le eBay Group. C'est un site d'annonce très connu aussi partout dans le monde. Ouais. Cédric doit connaître.
Oui, je connais, ouais.
Quoi, ils avaient eu des annonces de cul, c'est ça ?
Non, c'est un site d'annonce vraiment très, très généraliste. Et ils avaient eu le même problème avec toutes les parties adultes qu'ils avaient dû remanier, puis mettre des contrôles, et puis mettre... Mais bon... Et puis c'est vrai que Craigslist, j'avais vu qu'il y avait une affaire de meurtre, de prostituée, enfin il y avait tout un truc autour, c'était vraiment...
Oui, ça c'était le tueur de Craigslist, c'était un petit peu, c'était voilà. Bon, anecdotique quoi, mais c'est vrai que ça en a fait une cible un petit peu facile quoi.
Mais c'est vrai que déjà de l'appeler service érotique à la base, ça fait vraiment très... Enfin je sais pas, c'est poussé au vice quand même. Hein.
Ouais, c'est vrai.
C'est sûr, mais dire section adulte, ça change pas grand chose. Et puis le problème en fait à la base, c'est que... Le problème,
c'est que tout est mélangé.
Ouais. Le problème c'est que voilà, si jamais tu ne fais pas une section adulte ou service érotique, c'est pas que ces annonces vont disparaître, c'est que les annonces vont apparaître dans toutes les autres sections. Ils vont aller les mettre, se fondre dans la masse et les mettre partout. Donc c'est le mieux qu'ils puissent faire, c'est les canaliser dans ces services-là, quoi. Enfin, dans ces sections. Enfin.
Ouais, je pense pareil. Surtout s'attaquer juste à Craigslist, juste parce que c'est le plus gros. C'est comme d'hab, on s'attaque au plus gros, plus brillant. Et puis s'il est fermé, ça ira ailleurs et ça réglera pas le problème.
C'est sûr.
Exactement. Par contre, il faut que Craigslist se méfie du contre-procès. Hein. On je dis ça, je dis rien.
Ouais, bon, eh ben écoutez, vous en grand connaisseur de ces sites de petites annonces douteuses, visiblement, vous nous tiendrez au courant dans les mois à venir. Et pour le sujet suivant, je vais vous demander un petit peu de votre expertise, parce que c'est un sujet auquel je crois que je ne connais pas énormément de choses. C'est ce fameux sujet de la loi LOPSI 2, qui fait un petit peu suite à la loi Hadopi, en tout cas dans le cœur et dans les esprits des blogueurs de la toile française. Puisque, une fois que la loi Hadopi, qui était un petit peu contestée, est passée, tous les regards se sont tournés vers la loi LOPSI 2. Et moi, j'ai lu un petit peu de quoi il s'agissait. Et alors, je vais vous laisser expliquer peut-être de quoi il s'agit exactement. Lequel d'entre vous peut prendre ça en charge ?
Je peux. Si,
Vas-y.
Vas-y, Mathieu.
En fait, c'est une loi, c'est la version numéro 2 d'une loi. Sur la sécurité intérieure. et qui regroupe en fait tout, comment dire, tout ce qui est équipement, sécurité, vidéosurveillance, radiolocalisation, les différents fichiers de la police et de la gendarmerie, contre le terrorisme et contre les affaires vachement graves, pédophilie, etc. Et en fait, donc cette loi dans l'ensemble, c'est une loi qui vise à voter des budgets pour les immeubles, pour l'équipement, pour tout ça. Et puis dedans, il y a une partie dans la loi qui indique que les OPJ, la police judiciaire, etc., aura le droit d'installer des mouchards ou des logiciels, des trojans, des clés USB, des choses un peu spéciales qui vont capter des données. Qui vont capter des données sur des ordinateurs. Ça peut aussi aller, comment dire, à l'analyse des trafics d'internet, de capter des bouts de ce que vous échangez sur internet, et de faire une immense base de données en connectant les fichiers déjà existants que la police ou que les autres services ont à disposition, afin de lutter contre le terrorisme et toutes ces mauvaises choses. Et le souci que ça pose, c'est que là, actuellement, dans la loi, ça induit que si maintenant quelqu'un veut installer si la police veut installer un mouchard, que ce soit sur votre ligne internet, sur un ordinateur, ça passe par un juge d'instruction, donc lui qui est indépendant du gouvernement, etc. Et le souci, c'est que le juge d'instruction, visiblement,
est voué. Il y a quelqu'un, il y a une moto qui passe derrière.
Il y a une moto qui passe. Je me suis dit, on va pas l'entendre.
Si, depuis tout à l'heure, ça arrête pas.
Et donc le problème, c'est que le juge d'instruction est voué à disparaître. Et donc là, le pouvoir d'installer un mouchard ou de surveiller une ligne est cédé au procureur de la République, qui lui est directement dépendant du gouvernement. Et donc là, c'est toutes les dérives possibles et inimaginables de ce qu'on a pu imaginer avec la loi Hadopi qui sont possibles avec la loi LOPSI 2.
Juste attention à une chose, c'est que dans la loi, il est bien précisé que les membres de... Enfin, comment ça s'appelle ? Les avocats...
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le juge, la presse, ainsi de suite, peuvent pas tomber sous le coup de cette loi-là, évidemment. Et c'est surtout pour les effractions a priori en bande, d'après ce que j'ai compris.
Voilà, c'est tout ce qui touche à...
Ouais, le terrorisme, ce genre de choses, la pédophilie en bande, les réseaux en fait, c'est essentiellement ça. Décrit comme ça, on peut être que pour cette loi. Ce qui fait peur, c'est qu'à partir du moment où on est soupçonné, on peut être évidemment... on peut tomber sous le coup de cette loi-là. Et ce qui est hallucinant, c'est que j'ai lu encore ce matin, les policiers en fait vont rentrer chez vous quand vous n'êtes pas là avec un huissier et un serrurier, vont ouvrir votre appartement, enfin votre porte d'appartement, et placer dans votre ordinateur tous les mouchards nécessaires et ainsi de suite, et sortir comme si de rien n'était. Donc c'est.
Je les vois bien faire ça sur un iMac ou sur un ordi portable.
Jamais. Il va réussir à tourner cette histoire en une pub pour Apple. Il est invraisemblable ce mec.
Et pourtant, ça
existe. Même un portable.
Une trame. Ouais. Ils vont bien nous sortir un truc qui va se mettre dans le filtre ADSL ou un truc comme ça. Je suis un peu parano.
Écoute, franchement, moi je comprends l'inquiétude que ça peut poser, mais il y a deux choses. D'une part, je me dis que. À partir du moment où il y a un contrôle judiciaire de ce type d'agissement, que ce soit le procureur ou le juge, bon, c'est qu'il y a quand même une nécessité de procédure, et c'est pas un flic qui, le matin, décide d'aller placer un mouchard chez un tel et il va le faire tranquillement, tu vois, tout seul.
Ben oui.
Donc, déjà, je trouve que c'est un garde-fou qui est important. Ensuite, je trouve que la panique qui a pris Internet avec cette histoire me semble un petit peu disproportionnée parce que...
Mais c'est un amalgame.
Mais complètement, je veux dire, la police a besoin d'outils. Et quand je dis la police, c'est la police au sens large. Je veux dire, les forces qui polissent notre pays ont besoin d'outils modernes pour pouvoir... pour pouvoir agir efficacement. Je veux dire, on est les premiers à se moquer du fait que dans un dans une gendarmerie, il y a un ordinateur vaguement connecté à Internet et encore les jours où il fait beau, tu vois. Et tu vois, quand ils essayent de moderniser, il est évident que la police a besoin de faire de la surveillance électronique, a besoin d'une centralisation des fichiers et d'une mise en relation des différents fichiers. Je veux dire, il serait hallucinant que la police qui a une information, enfin telle section qui a une information dans tel fichier, tel autre département n'y a pas accès parce que leurs fichiers sont pas connectés. Je comprends pas, et je sais que Corben aura certainement des choses à redire là-dessus parce qu'il est très très remonté contre l'OPSI. Mais je comprends pas pourquoi les gens sont aussi réfractaires, quoi. Je sais que l'état policier fait peur, mais on a quand même besoin d'un minimum d'efficacité dans le travail de police. Et à partir du moment où il y a un besoin de mandat et un garde-fou légal, je comprends pas le pourquoi de cette révolte. Alors qu'on en discute, qu'on dise attention, ça peut faire des dérives dans tel et tel domaine, je comprends. Mais qu'on se lance dans une sorte de campagne anti-1984, ça y est, c'est Orwell. Je veux dire, bon, calmons-nous, quoi.
Surtout que le projet de loi, quand tu le lis, ça parle essentiellement de budget, de matériel, etc., et que c'est toute une petite partie.
Ouais. C'est vrai que les écoutes abusives, tout ça, ça n'a jamais existé par le passé.
c'est ça, on a l'impression que les gens découvrent, quoi. Ça s'est toujours fait, il y a toujours eu des écoutes téléphoniques, il y a toujours eu des surveillances de différents.
Plus ou moins légales.
Mais oui, évidemment.
Ce qui fait assez peur, c'est qu'on revient sur juste une affaire, on s'éloigne un peu du sujet tech deux secondes. On revient sur une affaire, vous savez, la fameuse affaire des gens qui, soi-disant, voulaient faire dérailler des trains, des TGV, ces soi-disant extrémistes de gauche. Il faut noter juste une chose, c'est qu'eux, par exemple, tombaient clairement sous le coup de cette loi et auraient pu être espionnés, alors qu'au in fine, il n'a pas été prouvé qu'ils étaient coupables, et même au contraire. Donc en fait, on décide d'écouter des gens sans réellement... eux, ils ont carrément été arrêtés. Donc imaginez, avec cette loi-là, ils auraient déjà eu leur ordinateur sur écoute depuis longtemps, enfin surveillé depuis longtemps, et... J'ai peur de l'abus quand même.
Moi, je crois qu'il y a aussi un facteur qui est important, c'est que aujourd'hui, dans notre société connectée, la vie privée n'est plus ce qu'elle était. Et c'est un fait qui fait peur et qui dérange certaines personnes, mais c'est comme ça. Je veux dire, la vie privée n'existe presque plus. À peu de choses près, on peut énormément de... Mais oui, c'est ça. Je veux dire, on laisse des traces électroniques partout et à chaque fois qu'on bouge un petit peu. Et le fait que c'est pas de la faute de la police si jamais on peut avoir plus d'informations sur vous, c'est de la faute d'Internet. Donc, si jamais vous voulez qu'on être complètement protégé dans votre cocon, vous n'envoyez pas de SMS, vous n'envoyez pas de mail, vous ne faites pas votre profil Facebook, vous faites rien du tout. Là, oui, vous serez tranquille. Mais le fait que, une surveillance des garde-fous bien établis, la police puisse avoir accès à ces informations-là, c'est logique, et le contraire serait surprenant. Tu vois ?
Non, je pense que le problème vient du fait que les gens pensent que Internet, c'est finalement à la maison et qu'on rentre chez eux quand on s'attaque à leur navigateur web ou leurs emails.
C'est vrai.
Non, mais c'est ça en fait le problème.
Mais il y a un petit peu de ça, je comprends aussi. Je veux dire, moi j'ai pas hyper envie que les gens aient accès à mon email et à mes emails privés. Mais le monde change, quoi. Comprenez que les choses ne sont plus comme avant.
Comme tu dis, Patrick, c'est qu'un regroupement d'informations qui est déjà présent. C'est-à-dire que quand on allume son portable, son opérateur, il sait où on est. Lorsqu'on paye avec notre carte bleue, ils savent où on a payé, etc. Et là, ça va juste être un fichier qui va regrouper des informations et qui va permettre de pister les organisations, les bandes, les groupes terroristes. C'était un des termes que j'avais vu qui m'avait fait sourire. C'est-à-dire que ça fait des années que la police a l'autorisation de poser des micros et des caméras dans ce genre d'affaires, mais ils n'ont pas le droit d'installer des mouchas. Voilà, donc c'est totalement, comme tu dis, c'est normal, faut qu'ils vivent avec leur temps. Et effectivement, je trouve ça très bien que la police ait enfin des outils, parce qu'ils s'attaquent à plein d'autres choses. S'il y en a qui ont le temps de lire le projet de loi, il y a des trucs vachement bien. De lecture automatique des plaques, de regroupement d'informations.
Ouais, c'est ça.
Et bon, les... les fichiers existent déjà, que ce soit sous forme Excel, sous forme Access, il y en a déjà énormément.
Les imprimes et... sur des papiers là, picots.
Perforés.
Non mais c'est super impressionnant. C'est un retour il y a 20 ans quand on peut le voir quoi. Mais donc là je trouve ça bien qu'il y ait un cadre.
Bon, écoutez, c'est surprenant parce que je pensais pas que cette conversation irait dans cette direction. Je pensais que tout le monde serait outré par mon opinion, mais
j'ai exactement la même.
D'accord. Bon.
Non, sur Adobe, ok, mais bon là, l'Opsy.
Oui, c'est ça. Ne mélangeons pas tout. Adobe, c'était le problème était justement que on pouvait avoir ce genre de condamnation sans l'intervention d'un juge. Donc là, c'était ça qui posait un problème véritablement, en dehors des questions philosophiques de faut-il autoriser le partage de fichiers médias. C'est autre chose, mais enfin bon, bref, ne passons pas deux heures là-dessus. Je pense qu'on a été clair sur notre opinion. Et je vais pour introduire la partie suivante utiliser un petit jingle que nous a envoyé Cédric. De Noix de Croco, qui est un blog sympathique. Et bah, je vais le lancer tout de suite et vous allez voir pourquoi on parle de ça. Est-ce que ça marche ? Non. Alors, attendez.
La séquence Apple. Yeah ! Celle-là même où on critique. Oui. Celle qui ne fera pas plaisir à Mac JT.
Alors,
ça plante le décor.
La séquence Apple, en fait, au début de la séquence Apple, on va parler de Microsoft, mais vous allez comprendre.
La séquence
stop. C'est bon, hop, voilà, c'est fini, calme-toi. Parce qu'il m'en a envoyé plusieurs. Donc, merci beaucoup, Cédric, hein, c'est fort sympathique ces trucs-là.
Terrible.
On en aura d'autres. Donc, la séquence Apple, pub Microsoft. En fait, il y a Microsoft qui fait ces fameuses pubs où ils disent aux gens « Allez-y, vous pouvez acheter un PC pour tant d'argent et si vous en trouvez un, eh ben, on vous le paye. » Et généralement, les gens vont voir les Macs, les machins, ils disent « Oh, les Macs, c'est sympa, mais j'aime pas trop. » Et finalement, ils finissent avec un PC, évidemment. L'une de ces pubs parlait de montage vidéo et la personne qui achetait ça a fini par tomber sur un PC plutôt que sur un Mac, dans une pub pour Microsoft. Hein. Donc, traditionnellement, le Mac a l'apanage du montage vidéo et quand on touche à cette petite niche, là, c'est la panique parce que non, mon Dieu, comment est-ce qu'on peut dire que le montage est possible sur autre chose qu'un Mac ? C'est la catastrophe. Donc, les Maceux n'étaient pas du tout contents. Une autre pub pour laquelle ils n'étaient pas contents, c'était la pub pour le Zune Pass. Alors, le Zune, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le lecteur MP3 de Microsoft qui est en vente uniquement aux États-Unis, mais qui a un Zune Store qui est complètement copié sur le l'iTunes Store, hein, bien sûr, mais qui a une petite fonction supplémentaire qui est l'abonnement. Qu'est-ce qui se passe avec l'abonnement ? C'est que vous payez $15 par mois et vous avez la possibilité de télécharger autant de musique que vous voulez, sans aucune limite. Évidemment, une fois que votre abonnement arrive à échéance, cette musique, vous ne pouvez plus l'écouter. Donc, c'est limité dans le temps. Mais par contre, si vous avez un Zune de 60 gigas, vous pouvez télécharger toute la musique que vous voulez, la mettre sur votre Zune, sortir avec, et vous aurez la possibilité d'écouter tout ça et de le remplir complètement en deux secondes. Alors voilà, les Maceux n'aime pas cette pub, ni l'une ni l'autre. Et d'ailleurs, tu as fait un petit commentaire, Mathieu, dans MacJT, que j'ai trouvé totalement biaisé et horriblement partisan. Quand tu évoquais cette chose-là, tu as fait une petite plaisanterie sur... et oui, évidemment, ce qu'ils ne disent pas, c'est que quand votre pass Zune arrive à terme, vous n'avez plus du tout toute votre musique.
tu peux pas les graver, tu peux rien faire, en fait. Tu peux juste l'avoir sur ton Windows Media Player et le transférer sur ton Zune pendant que tu payes l'abonnement. Tu peux rien faire d'autre.
C'est-à-dire que tu peux l'avoir sur ton ordinateur où tout le monde écoute la musique aujourd'hui et sur ton Zune où
Ordinateur dans Windows Media Player, je tiens à le préciser.
Oui, accessoirement, la musique de l'iTunes Store ne marche que sur iTunes.
Non, tu peux le lire partout, c'est de la CEPA protégée.
Oui, quand tu les achètes. Soit dit en passant, avec le Zune Pass, les morceaux que tu achètes, ils sont sans DRM aussi. Ça, ce dont tu parles, c'est uniquement pour les trucs de l'abonnement. Oui. Et, entre parenthèses, pour $15, tu as droit également à 10 morceaux achetés par mois. Donc, c'est comme si...
Ouais, non, mais c'est... L'offre en elle-même est sympa. C'est moi je trouve ça bien cette technique d'abonnement qu'ils essayent. Bon ça,
comme il est gentil et plein de mensuétude de dire oui c'est sympa.
Non c'est l'offre, les offres d'abonnement. Bon la plupart ils la lancent et puis ils l'arrêtent un an après malheureusement parce que ça marche pas et c'est pas encore dans les habitudes. Mais tenter des offres d'abonnement etc. En plus là Microsoft est une des, enfin il reste plus trop de monde sur le marché du MP3 qui peut faire beaucoup de choses créatives, ils sont complètement morts. Rio ça n'existe plus. Essayer de concurrencer je trouve ça bien, mais c'est après venir avec un expert à la calculette qui sort ouais avec votre iPod d'il y a 2 ans si vous voulez le remplir ça vous coûte 30 000 $, regardez le ZunePass c'est beaucoup mieux, vous pouvez accéder à toute la musique sans dire tout ce qui est tous les désavantages de l'offre et focaliser sur les...
Est-ce que tu trouves que c'est faux ce qu'il dit ? C'est-à-dire que c'est vrai que si tu veux remplir ton iPod, ça coûte quand même très très cher. Je veux dire, si tu veux acheter, je sais pas, une trentaine de CD, ça va te coûter quand même un petit peu d'argent. Alors qu'avec avec un pass, moi je suis très client de ce type d'offre, hein, c'est pour ça que ça me parle, avec ce type de pass, tu peux avoir ton iPod rempli. Et j'irai même plus loin. Si Steve Jobs décide un jour que iTunes a droit lui aussi à son offre de passe illimitée, tout à coup, tu vas voir tous les fans de Mac qui vont retourner leur veste en une seconde et demie et qui vont dire que cette offre-là est la plus belle invention de la Terre et la mieux conçue de l'histoire, etc. etc.
Ça dépend comment avec toi.
Dis-lui.
Pourtant, je suis un Mac fan aussi, comme toi, Mathieu, depuis longtemps. Mais ce qui m'embête un peu là dans cette histoire, c'est que finalement, Microsoft compare deux offres différentes.
Voilà, c'est ça le problème.
Moi, ce que je pourrais dire aussi, c'est dans ce cas-là, une Twingo, si je veux acheter une Twingo, ça me coûte 9 000 €. Regardez, avec la Ferrari Microsoft, je peux avoir une Ferrari pour seulement 2 000 €. Sauf qu'ils ne précisent pas que c'est uniquement pour une journée et qu'elle ne m'appartient pas, quoi.
Voilà.
Ok, alors quelle est une somme raisonnable que tu penses dépenser sur l'iTunes Store si tu veux acheter les morceaux que tu veux acheter sur une année, disons?
Sur une année, waouh, ça c'est le genre de statistique impossible à sortir, mais moi je peux te dire qu'aujourd'hui je dépense à peu près entre 10 et 20 euros par mois en achat de musique.
D'accord, et tu penses que tu vas continuer à dépenser entre 10 et 20 euros par mois en achat de musique pendant longtemps ?
Ça dépend comment on peut filtrer Adopi. Non, je plaisante. Bien sûr, pendant longtemps, mais aujourd'hui...
Entre les révélations et ça, alors, t'es fini, toi.
C'est terminé, il va recevoir un coup de fil, justement, avec la loi LOPSI 2, ils vont lui faire... Alors, monsieur Cédric de Geek.
On passera demain à 6h, il faudra être disponible, et si vous pouvez nous ouvrir l'ordi.
Bien sûr. Non, mais je travaille à la maison, je fais du télétravail, donc je serai là. Mais c'est pas ça le problème, en fait. C'est... effectivement, je vais continuer à payer ma musique, mais regardez, avant iTunes, avant le reste, on achetait bien sa musique, quoi. Enfin... qu'est-ce qu'il y a de choquant
Moi, je crois que les choses sont en train de changer et que d'ici pas si longtemps que ça, on pensera pas à la musique comme on y pense aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui, on a l'idée qu'on s'approprie la musique, on achète un morceau et il est à nous. Moi, je pense pas que c'est comme ça que ça va continuer à marcher pendant très longtemps. Je pense qu'on va passer à un modèle... Et d'ailleurs, si jamais un jour, Apple passe effectivement à ce modèle-là, j'ai beau dire que j'aime bien le truc de Microsoft et que Apple, les fanboys d'Apple se moquent, je sais que Steve Jobs justement le fera comme il faut et exactement de la manière la plus simple et la plus adaptée et la plus merveilleuse qui soit, j'en suis convaincu. Et ce jour-là, le monde de la musique est totalement transformé. Et ce jour-là, on commence à se dire, ah bah oui, bah ma musique, c'est pas un truc auquel je pense en me disant, j'achète... un fichier ou un CD ou un truc comme ça, c'est un truc auquel je m'abonne et quand je suis abonné à la musique, je peux écouter tout ce que je veux, que ce soit sur mon ordinateur ou sur mon iPhone ou sur quelque chose, peut-être même en streaming ou Dieu sait quoi, et voilà, et le fait que j'ai acheté ou pas ce morceau n'a aucune importance, aucune,
c'est pas parce que de toute façon j'ai accès
tout le temps, voilà, exactement. Exactement.
Ça tout à fait, mais même moi aujourd'hui je dois être peut-être de la vieille école, mais je continue à acheter certains morceaux. Il est clair qu'il y a certains morceaux que j'aime, enfin que j'ai envie d'avoir, que je possède en fait.
Ouais, mais si tu l'as tout le temps de toute façon.
Oui, mais regarde, j'interromps mon abonnement, je ne garderai pas le morceau.
Mais tu n'interrompras jamais ton abonnement. C'est ça le truc. C'est que si c'est un prix raisonnable, tu ne l'interrompras jamais. C'est comme Internet. C'est comme te dire, oui, je ne vais pas utiliser Gmail parce que si jamais je n'ai pas d'abonnement Internet, je ne peux pas avoir mon email.
Je te donne un exemple. Moi, je suis passé à l'achat de musique sur iTunes le jour où j'ai eu un iPhone.
Ouais.
Pour rien me cacher. Et au début, j'avais droit à des beaux DRM magnifiques qui m'embêtaient parce que j'avais aussi un Nokia N95 et j'aimais bien écouter ma musique sur mon Nokia, mais je ne pouvais pas le faire. Mmh. Si demain, ils me sortent un abonnement à la musique, il sera très certainement avec DRM, que les choses soient claires.
Bien sûr, oui, c'est évident. C'est
ça serait complètement idiot. Et je te donne un autre exemple. Ben là, aujourd'hui, depuis une semaine, j'ai un HTC G1 sous Android. Bon, qui n'est pas le top des mobiles du moment, mais j'ai réussi à transférer ma musique sans DRM dessus pour pouvoir l'écouter, parce que je ne vais pas me trimballer avec deux téléphones. Demain, si je suis abonné à une offre iTunes, je ne pourrais pas le faire.
D'accord.
Bon, et il y a certains morceaux de musique que je voudrais quand même avoir avec moi.
Alors, donc, si tu avais la possibilité d'avoir cet abonnement à 15€ ou 15$, qui te donne également, pour ces 15$, 10 morceaux à télécharger.
Ouais.
Inclus
sans DRM.
Sans DRM. Ça t'intéresse?
Là, ça m'intéresse. Ouais.
Eh bien, c'est le pass Zoom. C'est comme ça.
Ok, je vais acheter un Zoom alors.
D'accord, merci. Ok, c'est exactement le truc. Et je vais même pas laisser à Mathieu l'occasion de répondre.
Bon, il fait pas téléphone ton Zoom là, je vois.
Non, mais ça va arriver.
Ça va arriver.
Ouais. Peut-être.
Non, mais concrètement, je suis d'accord. Mais c'est ça, c'est la pub. C'est les pubs qui. Mais d'ailleurs, j'ai pas trop aimé la pub d'Apple. Les PC, ça. Enfin, les PC, ça crache la réponse. J'aime pas trop cette histoire de réponse de pub. mais c'est vraiment ça.
D'accord.
C'est vraiment prendre. Voilà, c'est prendre deux offres totalement différentes et faire. Nous, on est mieux. On cache tous nos défauts et puis on met tous les défauts du concurrent en avant.
2 000€ ou une Twingo à 9 000.
Voilà, un truc qu'Apple n'a jamais fait de sa vie. Ils ont jamais fait.
Ah non,
jamais. Ok, bon, on va passer à une autre histoire qui va être notre dernière histoire longue. C'est cette fameuse attaque de DDO dollar de Pirate Bay. Est-ce que vous avez entendu parler de ce truc?
Ouais,
pas du tout.
Pas du tout.
J'ai failli le faire. Alors, je me suis dit non, peut-être que l'Opsi espionne mon compte, alors je me suis
calmé.
On
sait jamais, ouais. Bah alors en fait, ce qui se passe, c'est que, comme vous le savez, The Pirate Bay, donc ce site d'échange de fichiers. Oui, tu connais pas du tout, hein, Cédric. Il essaye de se regagner des points.
Achète-toi.
Moi, je connais Mininova, mais pas.
Ah, d'accord. Donc, Pirate Bay a été condamné par la justice suédoise à payer une amende énorme pour ses activités de pirate. On en a parlé suffisamment dans l'émission, vous le savez. Ce qu'ils ont fait, c'est un système dans lequel ils encouragent les utilisateurs, les gens qui les soutiennent, les internautes, à payer pour eux le montant de cette amende, mais d'une manière un petit peu particulière, c'est-à-dire en envoyant des sommes de 1 kroner, qui est une somme minuscule, à la personne qui est censée avoir réception de leur amende. Le truc, c'est que avec ce système, les 100 premiers transferts sont gratuits, mais après le 100e transfert, la transaction coûte 2 kroner au récepteur. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de dire envoyer 1 kroner, ça leur coûtera 2 kroner par transfert. Donc, au bout de X millions de kroners qui ont été envoyés, ça leur a coûté plus d'argent que ça ne leur en aura rapporté. Et ils ont fait tout un site comme ça, toutes les explications, etc. Gottfried, oula, c'est difficile de dire son nom, Svartholm.
Waouh, bravo.
Merci.
A
mis ce système en place. C'est encore une fois le génie de Pirate Bay, quoi. Ils appellent ça une attaque de DDoS, enfin,
ouais.
DDoS dollars, qui est les initiés comprendront. C'est extraordinaire, cette histoire. Ils sont d'une inventivité. Et donc, aucun de vous ne l'a fait?
Non.
J'ai failli le faire.
Ah,
j'ai vraiment failli le faire. Je me suis retenu.
Mais ne serait-ce que pour le génie de la démarche, je trouve que ça mérite, tu vois, de. Enfin, bon voilà, ça c'était une histoire.
Et c'est
drôle.
Bien fait pour eux.
Ouais, et d'ailleurs, vous savez qu'ils reviennent, hein, les gens de l'industrie du disque disent que la somme qu'ils ont été condamnés à payer n'est pas suffisante, donc ils en veulent plus.
De toute façon,
ils en vendront toujours plus.
Hein. Ouais. Tant qu'eux, pardon, Cédric.
Tant qu'ils n'auront pas eu leur tête au bout d'une pique, de toute façon, je pense qu'ils ne lâcheront pas.
Hein. Exactement, oui.
C'est ça, soit les gens se remettent à acheter des CD et arrêtent Internet, ou soit les majeurs meurent. Il n'y aura que ces deux solutions.
Oui, hein, je pense que mais c'est peut-être pas la deuxième qui va arriver. Hein. Mmh. Enfin, bon, on va passer à nos histoires un petit peu plus courtes, pour lesquelles on a également un jingle de Cédric que je joue tout de suite.
La séquence des rumeurs à la con. À la limite, on aimerait bien en parler un petit peu quand même.
Les rumeurs à la con. Oula, merde, non, non, stop. Je ne suis pas encore au point. Hein. Il va falloir que je m'entraîne un petit peu. Les rumeurs à la con. Allez hop, on va aller très très vite. Facebook vire des photos de femmes en train d'allaiter parce qu'on voit leurs tétons. Mais
Dieu.
D'un autre côté, oui mon Dieu, c'est horrible. D'un autre côté, les groupes néo-nazis sont toujours présents sur Facebook. Donc,
ça, je ne comprends pas.
C'est invraisemblable. Hein. Là, il y a de bons côtés aux États-Unis, il y en a aussi des mauvais. Et le puritanisme qui fait que Facebook décide qu'il est plus acceptable d'avoir des groupes négationnistes au nom de la liberté d'expression, ce qui peut être défendable, mais qui d'un autre côté se dit qu'on va enlever les photos de femmes en train d'allaiter parce qu'on voit un bout de téton, c'est hallucinant. D'ailleurs, Mathieu, tu me disais qu'ils organisaient un truc contre ça.
Il y a eu un allaitement public devant le siège de Facebook suite à cette affaire. Donc ça va. J'ai trouvé ça super, mais franchement, ouais, comme dit, c'est hallucinant.
Comme quoi, ils ont aussi un petit peu d'humour dans ce domaine-là et ça a provoqué beaucoup de révoltes aux États-Unis aussi. Cette histoire a fait
surtout les que là, c'est de l'allaitement, c'est pas du.
Mais oui, il y a
pas
rien.
Du, de... Je me montre, c'est.
Oui, oui, vraiment. Autre histoire, le Palm Pre, ce fameux, sort enfin. Il a une date de sortie, c'est le 6 juin, deux jours avant l'annonce de Apple, qui va sans doute annoncer son nouvel iPhone, hein, on pense. Palm, oui, c'est certain. Palm dit déjà qu'ils n'auront pas assez de Palm Pre.
C'est Messi, normal. Hein.
Ils auraient pu en faire un petit peu plus. C'est vraiment le tout pour le tout que joue Palm là, et ils commencent déjà à dire on va quand même pas en vendre trop. Enfin bon. Cédric, toi, t'as eu l'occasion de
jouer avec.
De jouer avec. Tu
ouais,
oui, thumbs up, thumbs down.
Pardon.
Thumbs up, thumbs down, c'est mon côté anglophone. C'est bien ou c'est pas bien?
Ben en fait, c'est génialissime. Du moins pour le peu que j'en ai vu. Ce qu'il manque évidemment, ce qui manquait lorsque je l'ai vu fonctionner, c'était clairement les applications. Oui, tout à fait, leur Palm Web OS Store. Mais pour l'avoir vu fonctionner, c'est vrai que ça marche très très bien. C'est aussi fluide, voire plus fluide que l'iPhone. Je suis désolé de l'avouer. Je suis moi-même grand fan de l'iPhone. L'interface, franchement, est génialissime. J'ai peur juste d'une chose, c'est qu'il y ait encore trop de raccourcis ou de gestes à apprendre. C'est pas aussi instinctif à utiliser qu'un iPhone.
Moi, j'ai une question par rapport à l'écran. Pardon.
Oui, vas-y.
Est-ce que c'est aussi, comment dire, on sait que l'iPhone a révolutionné ce côté tactile grâce à son écran capacitif comparé aux autres, qui avait un écran résistif. Le Palm Pre, c'est quoi?
Alors, en fait, on n'a pas le droit de le toucher en fonctionnement. Donc,
d'accord.
Le démonstrateur me le faisait, mais il m'expliquait. Mais d'après ce que j'en ai vu, c'est exactement le même toucher capacitif que l'iPhone. Hein.
D'accord, moi, ça, c'est...
Voilà, on n'appuie pas dessus, on pose à peine son doigt dessus.
Et l'iPhone, il faut par contre qu'il y ait un contact électrostatique, mais pas sur le Pre. Le Pre, on peut toucher avec l'ongle, par exemple. Et il y a des gens chez Buzz Out Loud, notamment Nathalie Delcanti, qui disait c'est une machine qui est extraordinaire pour les filles, parce que même avec leurs ongles longs, elles peuvent manipuler l'appareil.
En fait, le gros intérêt, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser même avec des gants en hiver, ce qui n'était pas le cas de l'iPhone.
C'est un des gros, énormes défauts de l'iPhone.
Oh non, il ne faut pas exagérer. Par contre, moi, ce qui me fait peur, ce sont les rayures, car clairement, il avait l'air très fragile, puisque c'est un plastique qui est dessus, qui n'a pas l'air spécialement très, on va dire, scratch resistant, comparé à l'écran de l'iPhone qui, lui, peut subir l'assaut de clés ou de fourchettes facilement, bien que je ne mange pas sur mon iPhone.
De toute façon, on va avoir les tests du mixeur dès qu'il va sortir.
Voilà, exactement.
Oui, tout à fait. Mais bon, c'est une très très belle bête. Hein. Et puis
vous m'intriguez avec vos histoires.
Le rechargement sans contact en le posant sa base.
On pose sur la base et il y a un petit aimant qui le maintient et il se recharge tout seul sans avoir besoin de brancher.
On avait tourné une petite vidéo pour Geeking, qui d'ailleurs est toujours sur le blog, qu'on avait du coup traduite en français parce que le démonstrateur était américain, qu'on avait tourné nous-mêmes, et c'est vrai que Bah, c'est impressionnant comme bestiole, hein, vraiment.
Bah, on devrait en savoir un petit peu plus à sa sortie aux États-Unis, donc le 6 juin, on vous tiendra informé de tout ça. Et puis, un tout petit truc rapide, en fait, j'aurais pas voulu parler de Twitter ce coup-ci, mais comme on nous a fait un petit jingle sur Twitter, il faut que je le joue et qu'on en dise deux mots. Et attention.
La minute, le quart d'heure, bon, ben, la demi-heure Twitter.
C'est énorme.
Ça, ça va vraiment être juste la minute. Hein. Merci Cédric, hein, c'est lui qui a fait tous ces petits trucs, c'est très très bien foutu. Donc c'était vraiment juste une petite minute Twitter. Twitter a diffusé l'info, enfin l'info a été diffusée sur Twitter selon laquelle Prop 8, qui est la proposition qui a rendu le mariage homosexuel totalement illégal aux États-Unis, en Californie, Twitter a diffusé l'info que cette proposition avait été invalidée par les tribunaux. Les tribunaux, donc tous les libéraux des États-Unis se sont refilés l'info, commencé à célébrer et tout ça, sauf que personne n'a pris le temps d'aller vérifier si c'était vrai ou pas. En fait, c'était une info qui était fausse et qui en plus était vieille d'un an. Donc voilà,
alors, voilà. Accessoirement, ils n'ont pas utilisé les nouvelles options de Google pour chercher.
Exactement.
Exactement.
Mais l'info venait du LA Times, en fait, qui est un média traditionnel qui s'était planté à la base. Donc oui, les gens de Twitter n'ont pas vérifié l'info, mais elle venait quand même d'un média traditionnel à l'origine. Donc voilà, c'est une des premières dérives véritables de Twitter dans ce domaine-là.
Ça sera la puissance et le défaut de Twitter.
Oui,
c'est comme si c'est comme si on nous avait annoncé que Pascal Sevran était décédé. Enfin, pardon, mince. Ça s'est déjà fait. Je suis désolé.
Oh mon Dieu, mais tu es terrible. Et notre dernière petite info, c'est que nous l'attendions. Nous étions tous assis sur nos sièges, on pouvait même plus contenir notre impatience. Eh bien, les deux plus grosses organisations du monde sont enfin sur MySpace, Facebook, YouTube et tout ça. Le FBI et le pape.
Voilà. Donc, c'est énorme.
On est content. Il y a un site qui s'appelle Pope2You. Donc, tout écrit avec un 2 carrément. Donc, c'est pas mal, hein. Ils se modernisent. Il faut bien que l'église reste au.
Ils vont même sortir une application iPhone, là, pour le Vatican.
C'est vrai. Elle va être acceptée par Apple, tu sais.
elle va être acceptée, puisqu'en fait, ils parlent pas du tout de préservatif, je crois, dedans.
D'accord, oui, là, t'es sûr au moins que... Ok, bon, bah écoutez, c'est notre dernière information pour aujourd'hui. On va avoir une nouvelle petite rubrique dans notre conclusion, qui est l'explication d'Arnaud. Arnaud est un auditeur qui nous a proposé une nouvelle rubrique, en nous proposant donc d'expliquer un terme dont on avait parlé les fois précédentes, et j'ai trouvé que son explication était plutôt bien foutue, donc je me suis dit qu'on allait la lire dans l'émission, et je vais vous la lire tout de suite. Et il parle du peer-to-peer. Le peer-to-peer, ou pair-à-pair, dont on entend tout particulièrement parler en ce moment, est en fait un protocole réseau. Petite digression sur le mot protocole pour les plus néophytes. Un protocole, ça porte bien son nom finalement. C'est la définition de l'ensemble des messages que vont échanger deux machines afin de communiquer. On pourrait prendre l'exemple de deux personnes se serrant la main. « Salut, j'aimerais communiquer avec toi, t'es dispo ?»« Ouais, aucun problème. J'arrive. » Traduit en protocole réseau informatique, ça donne SYN, SYN ACK, ACK pour les intimes. Un truc du genre. Moi, je comprends pas bien, mais c'est ce qu'il a écrit. Le principe fondamental du pair-à-pair, c'est qu'il propose sur une communication d'égal à égal entre toutes les machines connectées au réseau, et pas seulement entre une super machine terrible qui dirige toutes les autres. C'est-à-dire, la super machine terrible, ça serait votre serveur d'où vous allez chercher vos informations quand vous affichez une page web, et la petite machine à vous qui va demander l'information, c'est une machine qui est dirigée par cette grosse super machine terrible. Du coup, quand les gens partagent des fichiers en P2P, ils ne sont pas stockés sur une machine centrale, ce qui en fait non seulement un très bon système de répartition des ressources, mais aussi un système rêvé pour les pirates, tout étant réparti. Voilà, je ne sais pas si l'explication aura convenu à tout le monde, moi j'ai trouvé plutôt sympathique, et ça vous explique un peu de quoi il s'agit. Voilà pour notre petite explication d'Arnaud. Donc merci Arnaud de nous avoir envoyé cette explication. Et il y a une petite vidéo qui expliquait un petit truc vaguement similaire de Mathieu, dont tu as parlé dans les notes de l'émission.
Ah oui, c'est vieux ça.
Voilà, c'est un petit peu plus vieux, mais elle était bien foutue. On mettra le lien dans les notes de l'émission. Ensuite, on a un coup de gueule de Cédric, qui est le même Cédric de Noix de Croco, qui nous a envoyé, les petits jingles, qui fait une petite explication par rapport à Adopi. En fait, ce n'est pas une explication, c'est un coup de gueule. Donc, je vais le jouer tout de suite. Voilà, je double-clique et ça devrait commencer d'ici quelques secondes si mon ordinateur sous Windows veut bien s'y mettre.
70 ans d'étroitesse d'esprit, vive les années 30. Avant de revenir sur le passé qui donnera une belle leçon, établissons ensemble ce que veut Adopi en 2009. Internet a permis depuis 2006 de découvrir les artistes inconnus du bataillon des Majors, Lily Allen, Grégoire, toi plus moi, et d'autres à découvrir. Ces mêmes Majors, Universal en tête, sont les premières à récupérer ces artistes et en faire du blé dès que l'occasion se présente. Pourtant, ce genre de major fait des pieds et des mains pour brider Internet. Curieux. Internet est populaire depuis 2003, disons. Seulement 6 ans. Avant, c'était réservé aux geeks et aux précurseurs abonnés à CompuServe, puis Netissimo, la peau des fesses. Et certains, déjà, sont dépassés par les événements. Parlons des majors et des artistes musicaux. À la large diffusion en France, dans les années 50, du disque vinyle et des tourne-disques, les producteurs se sont offusqués. Si tout le monde peut avoir la musique à volonté chez lui et ses voisins, alors plus personne ne viendra au concert. Faux. Ce sont ces premiers plaignants à maintenant vanter les vertus économiques, pour leur compte en banque, de la vente de disques. Forcément, contrairement aux concerts d'antan, ils marchent plus sur la vente de disques en plastique que sur les tickets en papier qui, pour ces derniers, ne requièrent pas de compétences techniques polluantes. À l'apparition des radios libres FM, Énergie, Radio Pirate, Maximum Fun, les producteurs se sont à nouveau offusqués. Mais plus personne n'achètera de disques si on peut entendre gratuitement la musique à la radio. Rappelez-vous, ils ne voulaient pas vendre de disques, hein, ça tuait les concerts. Faux, encore une fois. Plus les musiques tournaient sur les radios libres, plus les disques se vendaient. Étonnant, non? Mais ils ont quand même gagné un combat, la SACEM. Les radios et télé payent la SACEM qui rétribue derrière les artistes. Mais dites donc, cela ne serait-il pas une licence globale? Certes, la SACEM est un organisme outrageusement opaque, encore à ce jour, qui gagne quoi? Mais les majors y ont trouvé leur compte grâce aux droits d'édition, qui représentent souvent 50% des droits d'auteur, curieusement plus que l'auteur, le compositeur ou l'arrangeur. Maintenant, ces majors se battent pour passer à la télé ou à la radio. Ce qu'ils trouvaient inadmissible au départ. Ils le font pour vendre des concerts? Non, des disques. Passons sur l'épisode cassette enregistrable qui, personnellement, m'a plus servi à enregistrer mes programmes en basique sur Amstrad CPC qu'à enregistrer de la musique pourtant rétribuée par la taxe SDRM. Passons également sur l'épisode compact disque qui a permis à chacun de refaire sa discothèque et de repayer au prix fort les droits d'auteur déjà acquis sur les vinyles et les cassettes. Apparaît maintenant Internet. Encore une fois, ils s'offusquent, entraînant des artistes naïfs dans leur combat stérile. Internet, comme les radios libres, va tuer la vente de disques. Faux. Encore une fois, ça fait 3 fois tout de même. Quand apprendront-ils de leurs erreurs? Les jeunes pirates, Internet est une plaie. Ça nous empêchera de gagner les sommes faramineuses que nous obtenions facilement par le passé. Waouh, on sent la motivation humaniste. Avis perso, producteur, bande de glands, si pour vous l'argent a été facile un temps... Sachez que ce n'est pas une norme, il faut se battre. Oula zut, il faut trouver un artiste, monter un concert, embaucher au rabais des intermittents, vendre des tickets. Quelle plaie, c'est pénible. Désolé connard, c'est ton job. Pardon, je m'excuse, c'était ton job. C'est amusant non? Ceux qui téléchargent n'ont pas 60 ans que je sache. Ils ont de 10 à 25. Et il se trouve, par un malheureux hasard, que ce sont précisément ceux qui, en 2009, achètent les disques. Il faut impérativement les punir. Faisons une loi. Eh oui, le directeur artistique, métier inepte, ça ne lui plaît pas. Plutôt que de rester assis dans son bureau parisien à compter ses deniers, il est obligé d'organiser des concerts avec moult techniciens. Il est obligé de partager son gâteau avec tout le monde. Et dans quel but? Que l'artiste profite de son public en direct. Et non au travers de CD de plastique à 15 euros. Pauvre producteur. Et comme à l'apparition du disque vinyle de la télé ou de la radio FM, vous, Majors, voulez préserver vos scandaleuses marges. Pour information, faire presser un CD par une entreprise comme MPO coûte quelques centimes. Boîtier et jaquette imprimées comprises. De là atteindre 15 euros, cherchez le gourmand. Conclusion. Personnellement, je ne regrette pas la disparition des diligences. Je préfère le bon taxi climatisé. Je ne regretterai pas non plus la disparition des Majors et de producteurs vénaux au profit d'artistes libres et en concert. Vive la création! Adopi, c'est un impôt pour maintenir en vie une industrie périmée. Incroyable. Je soutiendrai Adopi le jour où on votera un impôt pour indemniser les cochers de diligence, les mineurs de fonds, les opératrices du télégraphe, les fabricants de pellicules argentiques et les réparateurs de Minitel. Producteurs, vous serez bientôt les premiers à vouloir être diffusés sur Internet. Dans 5 ans, vous supplierez les sélecteurs de vous mettre en première place. Vous ferez des partenariats pour être présentés. Ce jour-là, Internet et les internautes vous diront « Dis donc du con, en 2009, c'est pas toi qui voulais que la loi Adopi soit votée ?»
Voilà, c'était un petit peu long, hein. Je disais à l'épisode précédent d'essayer de faire des trucs un petit peu plus courts, hein. Déjà, c'était moins long celui qu'on avait eu à la fois d'avant, mais je l'ai trouvé à la fois très drôle et très bien décrit et très bien compté.
Excellent.
Donc je voulais vous
Cédric Président. Écouter.
Bon, il a dit un petit peu tout ce qu'on disait de manière beaucoup plus percutante. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais ça valait le coup. Voilà, on va passer maintenant à notre... Bah, j'ai pas de conseil logiciel ce coup-ci, donc j'ai juste le site fantastique qui, soyons totalement clairs, m'a invité à une petite soirée de présentation, donc voilà, je suis peut-être un petit peu biaisé. C'était socause.fr qui a fait un petit buzz sur Internet. Oui, exactement.
Il y avait du champagne au moins.
Il y avait du vin, qui était pas mal.
Ah.
Il y a une petite soirée de présentation. Socause.fr, c'est un site d'enchères en direct. En fait, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'ils ont tous les jours à 20h30 une série d'objets qui sont mis en vente et il y a un prix de départ qui est annoncé et pendant 30 secondes, un truc comme ça, le prix descend, et vous devez cliquer pour l'acheter au moment où vous estimez que vous êtes prêt à payer ce prix-là. Et il y a parfois des lots, hein, il y en a 10, 20, 30, 100, 1000 objets, et quand ça atteint le prix de réserve mis par le vendeur, eh ben, l'objet disparaît. Donc c'est une sorte d'enchère inversée, et ils ont des soirées à thème, où vous avez genre, à 20h30, il va y avoir 10 objets sur tel thème, des tapis persans, des objets art déco. Il y a aussi des trucs genre des voyages vendus à prix réduit, tel et tel jour. Vous pouvez prendre connaissance de du programme, je crois, 48 heures avant. Et moi, j'y suis allé en me disant, je suis pas du tout client de ce genre de truc. Et en fait, c'est vachement bien foutu, c'est très ludique. Donc, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Voilà, donc si jamais vous êtes adepte de ce genre de choses, allez voir socause.fr, S-O-K-O-Z.fr. Vous ferez peut-être de bonnes affaires. C'est plutôt sympathique.
Le site voilà. D'enchères inversées, en fait.
Enchères inversées, mais c'est particulier. Tu sais, ils en font vraiment un événement. C'est tous les jours à 20h30 avec des thèmes.
Et puis, ça a l'air légal comparé aux autres.
Bah c'est légal, les trucs d'enchères inversées, même les autres. Les trucs genre. Enfin bon. Non, tu penses encore à des sites étranges dans lesquels tu traînes, toi. Je sais pas de quoi il s'agit.
Non, mais la plupart des sites, les sites d'enchères inversées, ils sont aux États-Unis. Tu vois, ils sont pas en France, bizarrement.
Ah oui, d'accord. Oui. Non, bah ceux-là, ils sont bien français. Ils sont très sympas.
Et en plus, ils payent le vin.
Et en plus, ils m'ont payé le vin. Donc voilà, vous pouvez aller voir, y jeter un coup d'œil. C'est plutôt très bien fait. Je vous dis, j'étais agréablement surpris. Bah écoutez, on est arrivé presque à la fin. On a également iTunes dont je dois toucher un petit mot parce que j'ai beau critiquer Apple, tout le monde sait que je suis un grand fan d'iTunes et visiblement vous aussi puisque vous nous avez laissé encore tout un tas de petites reviews et de notations et on a dépassé les 100 commentaires sur iTunes, on est à 101, donc merci à vous tous et pour le coup pour fêter ça je vais vous lire le 1000e avis qui est Léo 20... Pardon, le 100e, j'ai dit le 1000e, je suis un petit peu...
T'es emballé là.
On a dépassé les 100 avis, je vais vous lire le 1000e.
Voilà, exactement. Donc on a un petit peu beaucoup dépassé, hein. On est allé très vite. Non, le 100e avis évidemment, de Léo21297, je ne sais pas d'où ça sort, mais c'est son nom. Ce podcast mérite vraiment d'être connu et reconnu par tout fan de technologie qui se respecte. Des infos pertinentes, une ambiance conviviale, voilà ce qui est au menu. Donc néophyte comme techno-addict. Ne manquez pas le rendez-vous tech.
Tout le mot pluriel, super.
Oui, non, mais lui, il sait, non. Tu vois.
Ouais,
lui, il fait attention. Bon, bah voilà, écoutez, ça va conclure notre émission pour cette fois-ci. Je voudrais vous inviter, vous, auditeurs, à aller jeter un coup d'œil sur MacJT, parce que même s'il est terriblement biaisé et ProMac, il fait une émission absolument formidable. C'est l'émission de Mathieu, Mathieu Blanco qui fait... tu peux nous dire tous les combien de temps, quel format, tout ça, dis-nous un petit peu, donne envie à nos auditeurs.
Alors, si vous trouvez le rendez-vous tech trop long... Vous pouvez vous rendre sur MacJT, alors même si on fait des petites blagues sur Microsoft, c'est un panaché de l'actualité technologique, chaque semaine, tous les dimanches soirs, sur MacJT.fr, et ça dure environ entre 15 et 20 minutes, alors il y a l'actualité, il y a le répondeur sur lequel vous pouvez laisser vos messages, vos questions, vos avis, donc voilà.
Tout à fait. Et d'ailleurs, je sais plus si je l'ai lu la semaine dernière ou je sais plus si c'était un email. Quelqu'un qui me disait bah oui, mais du coup MacJT il passe la veille juste avant toi et il y a quelques infos qui se recoupent. Donc je disais bah oui, je vais essayer de payer Mathieu pour qu'il le fasse un autre jour. Je sais pas, le mardi.
Qui vient mais c'est même pas un problème parce que moi je balance les news en moins de 30 secondes et puis on a le temps de les développer dans le rendez-vous tech correctement.
Exactement, donc il faut écouter les deux.
Il faut écouter les
deux. Cédric, les gens peuvent te retrouver sur le blog et le podcast Geeking, puisque tu fais les deux.
Oui, exactement. Et là, je vois que dans la chatroom, on dit Geeking Power et Scud, c'est encore mieux, effectivement. Donc, Geeking, on parle de l'actu geek, mais alors plus au sens culturel, pas trop techno. On parle un peu de techno, mais... On parle essentiellement de films, de cinéma, de comics, de jeux vidéo, en plus des nouvelles techno. Et nous ne sommes pas encore à sans avis dans iTunes, et on le regrette franchement. Donc voilà, et donc ben en fait si par exemple vous regrettez de ne pas avoir l'image sur MacJT ou le rendez-vous tech, nous on est en vidéo.
Et donc alors, il faut écouter les trois.
Voilà, exactement, il faut écouter les trois. Enfin, regarder surtout le mien, parce qu'on l'écoute, mais on le regarde aussi. Et donc nous, c'est un podcast par jour. Enfin, c'était un podcast par jour jusqu'à il y a deux semaines, parce qu'on a été très pris, mais on reprend. Donc c'est un podcast par jour, sauf le samedi et le dimanche, et un gros podcast le vendredi, qui dure entre 20 et 30 minutes, voire 40 quand on a un peu trop bu. Voilà.
Donc c'est les petits shortcasts tous les jours de 3 minutes où vous parlez d'un sujet différent à chaque fois. Et puis la grosse émission le vendredi qui dure 20-30 minutes effectivement et qui sont super sympas et l'ambiance entre vous deux est très cool donc voilà, je la recommande également.
Merci
à tous nos auditeurs. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur nous au Rendez-vous Tech, vous pouvez aller sur lrdv.fr. Si vous voulez nous envoyer un mail, c'est à tech@frenchspin.com. Vous connaissez évidemment le site Frenchspin maintenant désormais. Si vous voulez me suivre, moi, sur Twitter, vous pouvez me suivre sous le nom NotPatrick, c'est très simple. Vous pouvez suivre Mathieu Blanco sous le nom Mathieu Blanco. Et Cédric, je crois que tu as un compte verrouillé, donc toi tu n'es pas public.
Oui, mais on peut me suivre quand même, c'est pas grave. Cédric Bonnet, allez hop.
Allez, voilà, Cédric Bonnet, donc vous pouvez nous suivre tous les trois, regarder tous nos podcasts, ça sera la fête à la maison et tout le monde sera super content. Merci à tous, on vous souhaite une bonne deux bonnes semaines et puis on se donne rendez-vous le 8 juin pour une émission pleine de news Apple et de toutes les autres choses, évidemment.
Bonne soirée.
Bonne soirée et à bientôt.
Allez,
bientôt.
Ciao. Au revoir.
Au revoir.